Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Djihad, terrorisme, salafisme, ces mots évoquent les tensions qui traversent le monde actuellement et pas seulement le monde arabo-musulman. Quels enjeux géopolitiques et quel rôle pour le conflit israélo-palestinien ? Un éclairage en 30 questions essentielles avec notre confrère Yann Mince du mensuel Alternatives économiques. Le secteur de l'édition dans le monde arabe, quatrième volet. Ce samedi, l'Irak, victime de la guerre, mais aussi les pays du Conseil de coopération du Golfe, où fleurissent les prix et émergent de nouveaux romanciers.
Orient Hebdo sur RFI.
Quatrième volet de notre série sur l'édition dans le monde arabe, les pays du Conseil de coopération du Golfe et l'Irak, avec l'anthropologue Franck Mermier. Bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il un trait commun entre tous ces pays ?
Alors, les pays du Conseil de coopération du Golfe créés en 1980, partagent des points communs, effectivement, mais avec des grandes différenciations. Par exemple, il va de soi qu'entre l'Arabie Saoudite, avec 25-26 millions d'habitants, et les autres pays du Conseil de coopération du Golfe, avec les Émirats Arabes Unis ou le Koweït ou d'autres qui ont un nombre d'habitants, une démographie moins importante, il y a effectivement des disparités très importantes au niveau sociétal, si on peut dire. Dans le même temps, il y a aussi, au niveau de l'édition, une censure qui s'exerce de façon différente selon les pays. Mais aussi, on a évidemment, avec ce bassin démographique que constitue l'Arabie Saoudite, aussi un marché du livre plus important, évidemment, en Arabie Saoudite que dans les pays voisins.
Est-ce que les États de cette région sont fortement impliqués dans l'édition ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que jusqu'il y a très récemment, c'était plutôt l'édition publique officielle contrôlée par le régime qui était, la plus importante. Et aujourd'hui, comme dans les autres pays arabes, il y a le développement de l'édition privée, et notamment en Arabie Saoudite, qui connaît un nombre très important d'éditeurs. Alors, on pourrait croire que ces éditeurs seraient plutôt concernés par l'édition islamique ou religieuse, qui est une part importante, certes, du marché du livre saoudien. Et pourtant, il y a aussi en Arabie Saoudite des éditeurs qui se consacrent notamment à la littérature. On sait que l'Arabie Saoudite connaît un essor du roman, comme dans d'autres pays arabes.
Avec beaucoup de femmes qui écrivent.
Beaucoup de femmes qui écrivent. On a parlé d'une centaine d'ouvrages par an publiés. Alors, pas publiés tous en Arabie Saoudite. L'autre caractéristique aussi, c'est que du fait de la censure, plusieurs éditeurs saoudiens sont installés soit à Beyrouth, soit dans les pays voisins périphériques, dans le cadre de la péninsule arabique. Et plusieurs de ces éditeurs libéraux saoudiens, finalement, publient aussi des ouvrages de pensée, de critique ou de sociologie sur l'Arabie Saoudite.
Et autre particularité dans les émissions, par exemple, c'est l'importation de beaucoup d'ouvrages en anglais.
Alors, il y a beaucoup d'ouvrages en anglais qui sont importés. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de l'éducation se fait en anglais. Il y a beaucoup d'universités privées qui sont des branches, finalement, d'universités étrangères dans les Émirats, mais aussi à Qatar ou dans d'autres pays, et qui produisent justement ce type d'importation d'ouvrages anglais.
Quel rôle jouent les remises de prix qui se multiplient aujourd'hui ? Il y a notamment, depuis 2007 à Abu Dhabi, un prix du livre arabe.
Alors, c'est un prix, celui de 2007 à Abu Dhabi, qui est souvent appelé le Booker Prize arabe, d'ailleurs parce qu'il a été fait en partenariat avec le Booker Prize de Londres. Il a un rôle très important aujourd'hui pour le développement du secteur du roman dans le monde arabe, parce que il est fortement médiatisé, notamment lors de la remise du prix pendant la foire du livre à Abu Dhabi, qui est une des foires les plus importantes du monde arabe, en tout cas de la péninsule arabique. Et puis aussi parce que les journaux arabes font beaucoup de publicité autour des auteurs qui sont sélectionnés. Alors il y a une liste longue, une liste courte, puis ensuite le lauréat du prix, qui verra souvent son œuvre être vendue par dizaines de milliers, ou en tout cas par milliers d'exemplaires dans l'ensemble du monde arabe. Et aussi, cela a permis à des écrivains arabes qui ne sont ni égyptiens, ni libanais, ni syriens d'être reconnus. Alors, certains écrivains arabes venant du Maghreb ou d'autres venant aussi de la péninsule arabique. Et donc, ça a permis finalement à des voix nouvelles d'être reconnues.
Des voix nouvelles qui écrivent sur quel thème ?
Alors, ce sont surtout beaucoup les questions sociétales ou politiques qui sont aussi traitées dans ces romans, dont on pourrait presque c'est-à-dire que beaucoup d'écrivains arabes sont devenus finalement des sociologues par procuration, du fait aussi qu'il y a très peu de recherche en sciences sociales dans de nombreux pays arabes. Et donc, ces questions sociétales permettent aussi de traiter de problèmes tabous ou occultés ou ignorés ou en tout cas enfouis. Et donc, cela permet également une forme de liberté qui n'existe pas, par exemple, dans la péninsule arabique, dans la presse, par exemple.
Il y a des femmes romancières.
Alors, il y a beaucoup de femmes romancières, notamment en Arabie Saoudite, hein, aujourd'hui. Et puis, dans l'ensemble du monde arabe, les voix féminines du roman arabe sont extrêmement nombreuses et importantes, d'ailleurs. Et donc, là, effectivement, il y a eu, depuis une vingtaine d'années, en tout cas, quelque chose qui s'est passé, un phénomène nouveau, qui est l'éclosion d'une littérature arabe, avec le fait que de nombreuses femmes y participent.
Un mot de l'Irak, dont on n'a pas parlé. Aujourd'hui, pays en guerre, donc l'édition doit être sous l'été noir, on imagine.
Alors, à l'époque de Saddam Hussein, le secteur évidemment de l'édition était nationalisé. Il y avait des éditeurs indépendants, mais ils devaient se trouver à l'extérieur des frontières. On en trouvait plusieurs au Liban ou à Londres. Aujourd'hui, depuis 2003, on aurait pu penser que l'édition allait fleurir en Irak. Il y a eu une première foire du livre qui s'est tenue après 2003 à Bagdad, mais il faut bien reconnaître que le nombre d'éditeurs est assez réduit en Irak même, en raison des problèmes de sécurité, de la guerre, etc. Et que plusieurs éditeurs irakiens, parmi les plus novateurs, disons, sont encore à l'extérieur du pays, même s'ils ont ouvert des branches à Bagdad, et on les retrouve soit au Liban, quelques-uns aussi en Allemagne.
Et les écrivains, eux, sont soit en prison, soit partis.
Alors, beaucoup d'écrivains irakiens sont connus, comme Ali Bader ou d'autres. Il vit en Belgique, d'ailleurs. Et on a aujourd'hui, effectivement, une littérature irakienne qui prend sa place, non seulement au sein de la littérature arabe, bon, ça existait déjà avant, mais aujourd'hui aussi qui est traduite en langue étrangère et qui est extrêmement novatrice, et avec des écrivains qui sont aujourd'hui même connus mondialement.
Merci Franck Mermier, co-directeur du livre Regard sur l'édition dans le monde arabe chez Kartala. La semaine prochaine, nous parlerons du Liban, le pays où probablement l'édition prospère le mieux.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
L'actualité de ces derniers mois nous rappelle chaque jour que le monde musulman, au Moyen-Orient en particulier, est traversé par de fortes tensions qui ne sont pas toujours aisées à comprendre. Pour nous y aider, l'éditeur Les Petits Matins nous propose de répondre à 30 questions essentielles, ou en tout cas que chacun d'entre nous se pose intuitivement. Et c'est vous qui l'avez rédigé, Yann Mince. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au mensuel Alternative Économique, dont vous dirigez le service étranger. Alors vous parlez des tensions dans le monde musulman, est-ce à dire que vous allez au-delà des limites du Moyen-Orient ?
Bien sûr. D'abord, les plus grands pays à majorité musulmane ne sont pas arabes. Le plus grand pays à majorité musulmane, c'est l'Indonésie, c'est plus de 200 millions d'habitants. Et ensuite, on trouve le Pakistan, on trouve l'Inde, qui n'est pas un pays à majorité musulmane, mais qui a une des plus grandes communautés musulmanes du monde, le Bangladesh, etc. Et on arrive au Moyen-Orient qu'après. Et on arrive dans le monde arabe même qu'encore après, c'est-à-dire en Égypte, etc. Donc, même si un certain nombre de musulmans du monde arabe ne s'en souviennent pas forcément, n'en sont pas toujours conscients, même si historiquement, pour des raisons d'histoire de l'islam, la religion musulmane est née dans le monde arabe est minoritaire au sein du monde musulman. Voilà, c'est simplement le succès de l'expansion de la religion musulmane, et évidemment, pensons au Nigeria, pensons à la Somalie, enfin tout un tas de pays qui sont extérieurs au monde arabe et qui sont de grands pays musulmans, ou en tout cas avec de fortes communautés musulmanes.
Alors la première partie du livre est consacrée à la religion. Vous vous demandez notamment si l'islam est compatible avec la démocratie.
Oui, parce que je crois qu'il y a cette idée que l'islam ne sépare pas ce qui est religieux de ce qui est politique, etc. Et que donc, il y aurait une incompatibilité, parce qu'évidemment, la religion, c'est un absolu, la politique, c'est forcément des compromis avec le réel. En même temps, je pense qu'on mélange un peu deux choses. Si c'est ça, aucune religion n'est compatible avec la démocratie, puisque toutes les religions veulent des absolus. Ce qui me semble spécifique dans le cas de chacune des religions, et singulièrement là, je pense à l'islam, c'est plutôt les rapports entre les responsables religieux, le pouvoir politique et la société. Et là, effectivement, dans les différents pays à majorité musulmane, ce rapport-là s'est organisé de façon différente. Et dans certains cas, on a des régimes qui sont fondés sur le refus de la démocratie. Pensons à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un cas très spécifique, unique, je dirais, d'une alliance au XVIIIe siècle entre un chef religieux fondamentaliste, aujourd'hui on dirait salafiste, et un chef tribal. Et cette alliance, qui perdure, dont les descendants sont toujours les alliés, a fondé l'Arabie Saoudite. En Égypte, c'est complètement différent. En Syrie, en Irak, en Indonésie, les rapports sont différents. Et je pense que le point aveugle de la compréhension, souvent, dans le grand public, en tout cas du monde musulman, c'est cette confusion entre la religion d'un côté et ceux qui exercent le pouvoir religieux, ce qu'on appelle les oulémas, les savants religieux, et le rapport entre ces savants religieux et le pouvoir politique, qui est très spécifique dans chacun des pays du monde musulman. Ils ne s'organisent pas de la même façon.
Donc démocratie et islam, ça peut aller de pair.
Évidemment.
On parle dans la deuxième partie du livre des principales crises en cours actuellement dans le monde musulmans, est-ce que le conflit israélo-palestinien, notamment le blocage sur le processus de paix, joue un rôle ?
Il joue un rôle, à mon sens, un peu paradoxal. C'est-à-dire que quand on voit aussi bien Al-Qaïda que l'État islamique, la cause palestinienne est une cause qui est dans le discours. C'est toujours contre les croisés, c'est-à-dire les Occidentaux et les Juifs, donc assimilés à l'État d'Israël. Et en même temps, concrètement, Al-Qaïda s'est pas beaucoup attaqué à l'État d'Israël territorialement, je veux dire, il n'y a eu pas d'activité pratiquement. Il y a eu des attentats contre les Israéliens à l'étranger, ça oui, au Kenya notamment, mais il n'y a pas eu vraiment d'effort d'Al-Qaïda pour s'attaquer à l'État d'Israël, pas plus d'ailleurs que vraiment pour l'instant de l'État islamique, à mon sens, parce que ces mouvements-là savent très bien que la réplique d'Israël serait extrêmement, probablement cinglante, extrêmement violente, que Israël est efficace contre ses ennemis, et que leur stratégie, c'est une stratégie d'attaque contre Israël dans un deuxième temps, plus tard. En revanche, c'est vrai que d'un point de vue rhétorique, dans le discours des djihadistes, le fait qu'une partie du Moyen-Orient, une partie du monde arabo-musulman, au-delà du Proche-Orient, mais une partie du monde musulman plus largement, a le sentiment que dans le cas d'Israël, il y a un double discours occidental. C'est-à-dire qu'il y a une proximité d'occidentaux avec Israël, qu'Israël peut se permettre des choses que d'autres pays ne se permettraient peut-être pas. Et ce sentiment de deux poids deux mesures, c'est quelque chose qui sert objectivement la rhétorique des mouvements djihadistes.
Dans la troisième partie du livre, vous la consacrez aux rivalités géopolitiques avec ces deux questions qui nous intéressent et qui se ressemblent mais qui ne se recoupent peut-être pas. Qui arme les djihadistes et qui les finance ?
Alors, pour ce qui concerne leurs techniques de combat, en fait, ils ont employé à peu près les mêmes techniques que les autres, c'est-à-dire effectivement la guérilla, le terrorisme, etc., avec une montée en puissance de techniques qu'ils n'ont pas inventées. Si on prend par exemple les attentats suicides dont on parle beaucoup, c'est pas une invention des mouvements djihadistes. En revanche, ils ont effectivement développé, et notamment l'État islamique, a développé un cocktail d'utilisation de ces méthodes qui est original. Par exemple, on voit aujourd'hui dans les offensives conventionnelles de l'État islamique, on voit par exemple, ils commencent par une vague d'attentats suicides. Ils envoient une dizaine de kamikazes se faire sauter pour dégager le terrain, si je puis dire, pour que les autres forces arrivent derrière. Ensuite, les mouvements djihadistes ont une capacité à récupérer des armes de leurs adversaires. Pensez à ce qui s'est passé avec l'armée irakienne ou à Mossoul, quand l'État islamique a pris Mossoul à l'armée irakienne. Ils ont récupéré tout un tas de matériel de l'armée irakienne qui avait été livré par les Américains, qui sont les soutiens de l'armée irakienne. L'argent, c'est une question un peu différente. D'abord, il y a des recettes classiques. Tous les mouvements de guérilla utilisent le racket de la population, la taxation de la population. Certains utilisent aussi les enlèvements, les kidnappings. Mokhtar Belmokhtar, le leader d'Al-Mourabitoun au Mali, est un spécialiste de cette affaire-là. Dans le cas de l'État islamique, qui est celui qui est le plus en vue aujourd'hui, la plupart des experts du financement s'accordent à dire qu'il n'a plus besoin d'aide étrangère, que depuis plusieurs années, il est autonome financièrement. Autonome financièrement parce qu'il contrôle des puits de pétrole en Irak et en Syrie, qu'il vend ce pétrole en contrebande. Il le vend à prix cassé parce que c'est en contrebande, mais il le vend quand même. Il le vend à la fois à des clients étrangers, si je puis dire, et mais il le vend aussi au régime syrien. Ensuite, il semble qu'aujourd'hui, je dis il semble parce que là-dessus, il faut être prudent, qu'une bonne partie des finances de l'État islamique viennent de la taxation, de l'extorsion qu'il fait sur les populations des régions où il vit. Songez qu'aujourd'hui, l'État islamique contrôle plusieurs millions de personnes et que ces gens-là ont des activités économiques, ces gens-là ont des propriétés. Donc, visiblement, c'est comme ça que ça marche. D'autres mouvements djihadistes moins fortunés qui ne contrôlent pas un territoire aussi riche ou aussi potentiellement riche, disons. Je pense à Jabhat al-Nusra, par exemple, la filiale syrienne d'Al-Qaïda. Eux, visiblement, ont besoin d'aide étrangère et il semble bien qu'une partie de cette aide vienne des pays du Golfe, non pas forcément des gouvernements des pays du Golfe, mais de donateurs privés des pays du Golfe. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le département du Trésor américain. Il y a deux pays du Golfe qui sont connus pour être des hubs, comme on dit maintenant, c'est-à-dire des centres de transit de cet argent privé. C'est le Qatar et le Koweït. Les États-Unis, qui sont des alliés a priori de ces deux pays, disent régulièrement à ces deux pays, vous ne faites pas le travail pour interrompre ces flux financiers, vous avez mis en place des lois, des règlements, vous ne les appliquez pas vous-même. Il me semble qu'un certain nombre de monarchies du Golfe, qui à la fois pour des raisons de politique intérieure, parce qu'ils ne veulent pas se fâcher avec la partie la plus radicale de leur opinion publique ou de leurs élites, et aussi peut-être parce que c'est une assurance vie pour eux de ne pas avoir trop d'ennuis avec les djihadistes, laissent filer de l'argent. Je ne dis pas que les gouvernements donnent directement, mais disons qu'ils laissent des privés de chez eux financer un certain nombre de ces mouvements.
Un dernier mot concernant Yann Mins, la quatrième partie de l'ouvrage consacré à la France. Pourquoi l'avoir consacré justement à la France ? La présence de l'islam est ancienne ?
Alors la présence de l'islam, elle est ancienne parce qu'effectivement, on le rappelait tout à l'heure, au Moyen-Âge, il y a eu dans le sud de la France des communautés musulmanes qui ont vécu un certain temps. Mais bon, ensuite, il y a eu un très long intermède et la France a renoué vraiment avec l'islam de façon massive, je dirais, à travers la conquête coloniale. Une partie des pays qu'a conquis la France étaient des pays qui étaient des pays à majorité musulmane ou avec des fortes communautés musulmanes. Pensons à l'Afrique noire, évidemment, enfin d'abord au Maghreb, à l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest, etc. Et puis ensuite, plus proche au Moyen-Orient, dans l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale, le mandat français sur la Syrie et le Liban, où il y avait des communautés musulmanes importantes, notamment en Syrie, qui est un pays à majorité sunnite. Donc la reprise de contact de la France avec l'islam s'est faite non pas dans l'Hexagone, mais d'abord dans une gestion de territoires coloniaux, donc un peu à distance. Ensuite, c'est à partir des années 60-70, quand on a une immigration de travail au départ, beaucoup venant d'Algérie, qu'effectivement on voit les gens qui sont de religion musulmane venir en France. À l'époque, la France, comme beaucoup de pays européens, mais les migrants eux-mêmes, pensent que c'est transitoire. Ils viennent travailler, gagner de l'argent et ils vont repartir. En 1974, la France décide de fermer l'immigration de travail. Donc un certain nombre d'immigrés se disent « J'ai deux choix, soit je reviens chez moi, mais il n'y aura pas de travail éventuellement, soit je reste ici, je fais ma vie ici, je fais venir ma famille. » Effectivement, du coup, on a une immigration, autant semble-t-il, les premiers migrants, c'était des gens jeunes, des hommes, qui se disaient « Bon, les obligations religieuses, je verrai plus tard, quand je serai un peu plus âgé, quand j'aurai du temps, quand j'aurai un peu plus d'argent, etc. » Autant à partir du moment où vous faites venir les familles, eh ben, la religion, l'exercice de la religion, le culte, ça devient une pratique normale. Je veux dire, les gens viennent avec leur langue, ils viennent avec leur religion, et voilà. Et ils cherchent les conditions de l'exercer. Et la France est un pays qui n'a pas pris conscience de ça pendant longtemps, qui est un pays qui a un rapport très perturbé, difficile avec la religion, parce que la fameuse laïcité à la française, qui est un peu une exception, je dirais, sur la scène politique, y compris sur la scène politique européenne. Cette laïcité, elle est toujours un peu embêtée avec la religion. Elle ne sait pas très bien comment s'y prendre. Au fait que le discours officiel, c'est que la laïcité, ce n'est pas l'hostilité à la religion, c'est la neutralité par rapport à la religion. Mais on voit bien, dans la question des lieux de culte, en France, on a des milliers, des dizaines de milliers d'églises qui sont là, certaines depuis de très longs siècles, d'autres qui sont plus récentes, mais qui font partie du paysage. Et pour beaucoup de gens qui sont y compris des défenseurs de la laïcité très acharnés, il ne leur viendrait pas l'idée de dire il faut raser toutes ces églises qui sont des affichages de la religion dans l'espace public, parce que c'est pas l'espace privé qui pose problème, c'est l'espace public. Bon. Personne ne dit ça. En revanche, dès qu'on veut construire une mosquée, ça devient un drame, parce que ce n'est pas dans la logique de l'héritage. Et du coup, d'un coup, on voit une espèce de discours étrange entre des gens qui sont défenseurs de la laïcité, mais qui en sont presque à défendre l'héritage chrétien au titre du patrimoine. Or, de fait, juridiquement, du fait de l'histoire, la séparation de l'Église et de l'État, la plupart des églises en France, des dizaines de milliers d'églises, appartiennent aux communes. Ce qui veut dire qu'il y a un patrimoine immobilier dont bénéficient les catholiques, moi je ne me pose pas de problème, dont bénéficient les catholiques, qui est géré par le denier public, par le contribuable. En revanche, les autres religions, singulièrement le judaïsme et l'islam, sont obligés de se débrouiller sans ce soutien-là. Et du coup, on a ces polémiques permanentes des collectivités locales qui ont des communautés musulmanes importantes, qui disent « il faut bien que ces gens aient des conditions pour prier dans des conditions décentes, sinon ça veut dire la prière dans la rue, et on sait tous les fantasmes auxquels ça donne lieu. » Mais les mairies ne peuvent pas construire, financer le fonctionnement des mosquées en raison de la laïcité. Et du coup, ça donne tous ces débats interminables que je trouve un peu vain et un peu ridicule. Il y a plusieurs millions de musulmans en France, il faut qu'ils puissent exercer leur culte de façon décente, digne, correcte, sans que ce soit perçu comme une agression par tout un tas de gens.
Merci Yann Mins, journaliste au mensuel Alternative économique, auteur de ces 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, publié aux éditions Les Petits Matins.
Merci à vous.
Guillaume Munier a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous parlerons de la présence chrétienne au Moyen-Orient, bien antérieure à l'islam et qui se confond avec l'histoire du monde arabe. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.